11h, 12h30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1. Il aurait voulu être une petite souris pour assister à la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, mais il a eu trop peur de se faire attaquer par les cheveux de Trump. La curiosité, son meilleur défaut, Laurent Barra.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous, salut.
Elle qui adore l'émission L'amour est dans le pré, pour elle le salon de l'agriculture c'est un speed dating géant, elle va y passer l'après-midi, la champêtre Léa Landau.
C'est vrai que j'adore cette émission, bonjour.
S'il avait le même temps de parole ici qu'Emmanuel Macron à la télé, c'est lui qui présenterait l'émission. Michael Quiroga est avec nous.
Bienvenue dans mon émission.
Il a créé une ONG avec le patron de son bar préféré, ça s'appelle Action contre la soif. Charité bien ordonnée commence par lui-même, Jean-Philippe Pizzini.
Pour qui là ? Santé à tous, à la vôtre.
Et elle nous jure qu'elle s'est fait pirater sa trottinette électrique. Elle voulait se rendre à la salle de sport et elle a fini au McDo. Et nous, bien sûr, on la croit, Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, Michael Quiroga nous parlera des seniors. À partir de 11h30, nous recevrons Anne Charrier et Nicolas Briançon pour la pièce Canard à l'Orange, actuellement au théâtre de la Michaudière à Paris. Comme dans la pièce, Jean-Philippe Bizini soupçonne sa femme de le tromper. Et à partir de 11h50, Stéphane Guillon sera notre invité pour son spectacle Premiers adieux à la Pépinière Théâtre jusqu'au 13 avril. Laurent Barra jouera les avocats de Stéphane Guillon et Léa Landau lui a préparé la toute dernière interview de sa carrière.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Selon un sondage, 6 Français sur 10 s'ennuient au travail, et bien souvent dans le plus grand des secrets, puisque 65% des femmes et 59% des hommes avouent faire semblant d'avoir un travail passionnant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Jean-Philippe ?
Oui, bah moi, oui, comme tout le monde, hein, avant de travailler à la radio, j'avais un boulot vraiment pas passionnant, du coup je passais mon temps à dormir et du coup ils m'ont viré.
Ah bon, c'était quoi comme métier ?
Surveillant de baignade.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Une annonce parue sur Le Bon Coin propose d'acheter une boîte de nuit échangiste située à Fougères en Bretagne pour la somme de 69 000 euros. On dirait une blague, une boîte échangiste pour 69 000 euros. Et je parie que c'est encore une histoire sans queue ni tête.
PSA va verser à ses salariés une prime de performance de 3 810 euros. C'est plutôt les clients qui méritent une prime. Moi-même, pour 10 000 euros, je sais pas si j'accepte de me ridiculiser en roulant en berlingot.
La chanson Despacito du portoricain Luis Fonsi vient de battre un nouveau record sur YouTube en dépassant les 6 milliards de vues.
Wow.
6 milliards de vues, donc c'est bon pour les yeux, mais quand même, ça fait mal aux oreilles.
C'est pas vrai, elle est géniale cette chanson.
Mais ne t'énerve pas, mais c'est pas possible.
Allez, un petit peu sur les nerfs, Léa.
Elle est géniale cette chanson.
Toi, tu vas faire des vues, toi aussi. Et
puis c'est pas le bon air.
Si, c'est le bon air.
Non, pas du tout.
Non, c'est Despacito. Rien à voir.
C'est ce que
pas du tout.
Je vous veux pas dans mon équipe.
Je veux pas y aller dans ton équipe.
Présidentielle en Algérie, les étudiants se mobilisent à leur tour pour s'opposer à la candidature d'Abdelaziz Bouteflika qui n'a pas parlé en public depuis 6 ans. Ils disent que le président doit être en capacité de parler s'il veut gouverner. C'est marrant parce qu'en France c'est l'inverse. Il y a des gilets jaunes qui pensent que pour gouverner, le président devrait plutôt être en capacité de se taire.
Au Vietnam, deuxième sommet Donald Trump-Kim Jong-un pour les négociations sur le désarmement nucléaire de la Corée du Nord. Ce sera également un sommet de la coiffure avec 2 records du monde de brushing atomique en simultané.
Au salon de l'agriculture, Laurent Wauquiez n'a pas hésité à aller caresser les vaches. En même temps, une vache, c'est comme le Parti des Républicains. Les deux se reconnaissent à leur tâche.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Michael Quiroga, Léa Landau, Jean-Philippe Bizini, Laurent Barra et 2 de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour VVF Village pour 4 personnes en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Michael Quiroga, Laurent Barra et Jean-Philippe Bizini.
Oh là là, il enlève la chemise.
Je suis chaud aujourd'hui.
On sent qu'il est en forme.
Oui. Je suis chaud, ils annoncent 20 degrés aujourd'hui.
C'est vrai ?
Ouais. Alors, mercredi, journée la plus chaude. Après, il va repleuvoir un petit peu.
Petit apéro en terrasse alors.
Mais grave. Avec vous, modération.
Mais vous, il suffit du soleil et ça y est, vous êtes
mais
heureux.
Grave, j'adore ça. Moi, je suis quelqu'un de simple.
Non, moi non.
Non.
Pourquoi ?
Ah, c'est vrai qu'avoir ta tête alors qu'il fait beau.
Ah ouais.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine.
Ah bah c'est pas gagné alors.
Tentez de gagner un séjour pour 4 personnes en pension complète, vos vacances en famille avec VVF Village. Vous pourrez choisir le VVF Village qui vous ressemble parmi 90 destinations authentiques en France, l'île de Ré, Megève, Jean-Lépin, Cap-Ferret.
Tout à fait.
Vous retrouverez petits et grands autour d'activités proches de la nature, du vélo, des randos, du paddle sur les lacs. Vous rencontrerez des gens sympas, partagez des bons moments. Bref, vous ferez le plein d'émotions avec VVF Village. Allez voir sur vvf-village.fr.
T'as déjà fait du paddle, toi ?
Pas du tout.
Ça ne m'étonne pas.
Mais déjà, je ne tiens pas sur une planche à voile.
Ouais, mais comme tu avais essayé le surf, le paddle, c'est un peu plus facile.
Ah, vous faites moi,
j'avais...
du surf ?
Non, j'avais fait du surf sur une plage.
Ah oui, il vaut mieux.
Et même là, elle n'arrivait pas à se relever, dis donc.
Ah, moi, j'ai fait du ski dans un champ une fois. C'est assez sympa.
On joue avec Nadège.
Oui, bonjour.
Bonjour,
bonjour
Nadège.
Nadège.
Nadège, vous avez 33 ans, vous êtes en congé maternité, vous habitez le Chélard, c'est où ça ?
En Ardèche.
Mais calme-toi,
j'y allais quand j'étais petit. J'allais dans ce village quand j'étais petit.
Mais il croit que c'est lui qui joue.
C'est vrai ?
À côté de Saint-Félicien.
Oui.
Bon, bah,
oui.
Je propose qu'on lui donne le voyage, hein. Il est tellement content.
Payaré, vous connaissez Payaré ? Payaré ?
Oui, oui.
Oui, incroyable. Et calme-toi.
Mais c'est mon enfance.
Non, mais on dirait qu'il a trouvé le truc au juste
prix. Au Chélard.
Ah bah,
il bonjour, avait trois Nadège. Télés. Ouais.
Nadège, vous êtes comptable, vous reprenez en octobre, c'est ça ?
Oui.
Je connais un comptable. Je connais un comptable. Oh putain.
Et vous écoutez l'émission tous les jours, du coup ?
Oui.
Je connais l'émission.
Je suis la victime. Je suis la tête de turc de cette émission. Vous savez, Nadège.
Vous allez jouer avec qui, Nadège ?
Jean-Philippe.
Ah, Jean-Philippe, il est en train d'être choisi plus souvent maintenant.
Ouais, ouais.
Et en plus, il se débrouille bien. La dernière fois, vous avez gagné, Jean-Philippe.
Ouais, 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 non, mais j'ai un beau taux de réussite.
Vous êtes prête de concentrer, Nadège ?
Allez, ça marche.
Top chrono.
C'est un duo d'humoristes, ils viennent de Toulouse. C'est les...
Je passe.
Ils ont un gilet jaune sur leur affiche. Ils font les municipaux.
Oh là là.
Bon alors, c'est pas grave, c'est un rugbyman, il a une grosse barbe.
Chabal.
Ok, c'est Joséphine Ange Gardien.
Bimi Mati.
Ok, elle chante Ma philosophie, je n'ai qu'une philosophie.
Amel Bent.
Ouais, lui c'est un chanteur, il a fait The Voice, il est.
Kenji Girac.
Ah, bah c'est pas grave. Lui présent, c'est lui
Amir.
Qui fait Kaamelott. Ouais, Amir. C'est lui
Kaamelott,
qui fait. Alexandre. C'est lui qui fait Kaamelott.
Oh.
Alexandre
Astier.
Oh non. Lui, c'est un.
Attends, le mec, il lui souffle carrément.
Ouais, vous avez pas. Vous avez dit Alexandre.
Non, à peine.
Oui, mais du coup, là,
Alexandre. Alors, ça compte
mais
un
demi.
Oui, vous avez Astier, mais oui. Ça fait 4,5.
Mais du
ça
coup,
fait une demi-réponse.
Du coup, elle a deviné Kaamelott, du coup.
Oui, mais 4,5. Hein, et je suis gentille.
Ça n'existe pas, 4,5, c'est la première fois.
Oui, bah, c'est la première fois, parce que vous avez un peu triché.
Mais non, je me suis trompée.
Et vous n'avez pas deviné, c'était les Chevaliers du Fiel à l'Olympia depuis hier soir. Okay.
Oh, vite.
Bon, 4 réponses, 4,5, c'est pas mal.
4,5.
Bon, on joue avec Yann maintenant. Bonjour Yann.
Bonjour encore, bonjour Anne.
Bonjour.
Bonjour.
Yann, vous êtes ambulancier à Montreuil ?
Oui, c'est ça.
Et alors, vous avez joué en novembre, vous avez perdu, c'est ça ?
Et oui, malheureusement.
Ah. Et vous aviez joué avec qui ?
Avec vous.
T'as bien fait de poser la question. Ouais,
voilà.
C'est marrant parce que vous gagnez souvent, Anna. C'est...
Excusez-moi, je veux pas vous pourrir l'ambiance ni jouer mon Laurent Barra, mais Montreuil, c'est de là que je viens, je connais.
Ah, bah c'est bien.
Voilà, c'est vrai, je le dis calmement, c'est tout.
Moi aussi, je le dis calmement.
Alors, vous écoutez l'émission tous les jours dans l'ambulance ?
Oui, tous les jours.
Vous dites si les, ou si les patients sont d'accord, vous leur demandez ?
Oui, bah, c'est les récalcitrants les plus compliqués, les personnes âgées, mais non, en général, il n'y a pas de problème, ils écoutent.
En général, ils écoutent. Et vos chroniqueurs préférés, c'est qui ?
Jean-Philippe Vézenu. Ah, qu'est-ce qu'il a dit ?
C'est qui vos chroniqueurs préférés ?
Léa, et puis c'est vous, hein, là, chef d'orchestre. Hein.
Ah, c'est vous.
C'est moi ? Oh. Oh. Mais sur votre fiche, il y a écrit que votre chroniqueur préféré, c'est Jean-Philippe Vézenu et Christine Béroux.
Non, mais c'est moi qui l'ai rajouté. Voilà, je fais mon mea culpa, c'est moi qui écris.
En fait, il a juste appelé pour vexer tous les autres, quoi.
Et alors, vous êtes, Yann, vous êtes ambulancier, vous êtes ambidextre, c'est-à-dire vous servez aussi bien de la droite que de la gauche.
Ah. Ouais, c'est bon,
ça, c'est sympa.
Comme Macron.
Mais ça sert à quoi ? Exactement.
Bah, par exemple, Oli, il est beaucoup plus habile de ses deux mains.
Bah, alors, n'importe quoi.
Bah quoi.
Ça va, Maxence, toujours, ça se passe bien.
Et vous voulez devenir formateur ambulancier, c'est-à-dire former d'autres ambulanciers, en fait, c'est ça?
Former les futurs ambulanciers, donc leur passer le CCA, donc c'est le certificat de capacité ambulancier.
Ah. D'accord. Et c'est quoi les capacités, les qualités pour être ambulancier? Il faut rester calme, il faut rouler vite.
Voilà, il faut mettre la sirène. Dynamique, il faut avoir de l'empathie, il faut avoir l'APS, donc l'attestation de formation au premier secours, 3 ans de permis, et puis tu vois là.
Voilà. Eh ben c'est bien.
Il faut faire pimpon, pimpon.
Pimpon, mais non, c'est pas pimpon.
Pimpon, pimpon.
C'est pas pimpon les ambulances. C'est tout doudou,
C'est pas pimpon, c'est tout doudou.
C'est quoi le bruit de l'ambulance, Yann? C'est quoi votre bruit d'ambulance?
Pimpon, pimpon.
Ah, vous voyez,
c'est les pompiers, pimpon.
Non.
En tout cas, il y a vraiment du fond dans cette émission.
Ah ouais, c'est lunaire, c'est lunaire. C'est lunaire.
On va finir sur Disney Channel.
Yann...
Je crois que Gulli, c'est dans le même état.
Ouais, c'est, bah, c'est ça, on est prêts.
J'ai entendu coin, coin.
Alors Yann, vous jouez avec qui?
Avec Léa Lando.
Ah. Très bien.
À combien il a fait Jean-Philippe déjà?
4,5.
4,5.
4,5.
Bon, alors... Ok, on
prêt,
va
attention,
de sortir.
Top chrono.
Alors, il chantait Je suis l'as de trêve qui pique ton cœur, Caroline. Oui, lui, c'est, il a joué dans Taxi Driver et il dit You're talking to me. Un acteur
c'est
américain. Oui, lui, c'est un chanteur qui fait Mais t'es où? Pas là, mais t'es pas là. Oui, elle, c'est une chanteuse américaine, elle chantait Toxic, Oops, I did it again. Oui, lui, elle, c'est une chanteuse aussi humoriste et qui fait des imitations. Elle est dans Les Enfoirés.
Louche.
Non. C'est pas grave, une chronique.
Camille.
Non, une chroniqueuse du grand journal d'avant qui a les cheveux courts, blonde.
Ah, je passe.
Lui, il chantait Ose et Jose et Joséphine.
Machon.
Oui.
Oh, oh, Machon sur le gong. Ouais, mais sur le gong, ça fait un demi.
Non, ça fait cinq.
Non, ça fait un demi sur le gong. Il a 4,5 aussi.
Non.
Faut les départager, bah si. Bah,
mais non, toi t'as soufflé
pas, je vais demander au... en régie, qu'est-ce qu'on me dit?
Maître Foireau, qu'est-ce
c'était
que...
C'était sur le gong, mais c'est, donc c'est comptabilisé,
c'est
on me dit.
C'est comptabilisé.
Vous avez gagné, Yann.
Ouais.
Oh là là.
Non, pas c'est, pas si, c'est pas ça, pas si c'est ça le cri de joie, ça va pas le faire.
Mais,
hein.
Mais il sent bien qu'il a un peu triché, qu'il a pas gagné.
Yann, je veux un cri de joie.
Il ose pas crier, il sent...
Ah, voilà.
Et on l'a entendu jusqu'à Gulli.
Vous avez gagné un séjour pour 4 personnes en pension complète, vos vacances en famille avec VVF Village. Vous pourrez choisir le VVF Village qui vous ressemble. Parmi 90 destinations authentiques en France, vous retrouverez petits et grands autour d'activités proches de la nature, du vélo, des randos, du paddle sur les lacs. Vous rencontrerez des gens sympas, partagerez des bons moments. Bref, vous ferez le plein d'émotions avec VVF Village. Allez vite voir sur vvf-village.fr. Ah ouais. Vous allez partir avec votre femme, votre fils, c'est ça?
Et puis je vais prendre un petit neveu, je pense.
Et un petit neveu, ça c'est trop sympa. Bah, profitez bien, Yann, vous nous tenez au courant, vous nous raconterez vos vacances.
Avec plaisir. J'ai bien fait de revenir en tout cas.
Bah vous voyez.
Vous avez bien fait de changer sur.
Oui, bah arrête de glousser toi quand on dit les prénoms pour faire deviner.
Mais non, mais j'ai pas fait exprès. En plus, je m'en veux. En plus, je suis un peu.
Un peu connu.
Non, je suis contrarié à cause de ça.
Bon, Nadège.
Nadège, je suis désolé.
Oui. Vous allez rejouer d'ici un mois.
Oui.
Oui, pas de souci.
Parce que vous étiez au bord. Hein. C'est vraiment parce qu'il a dit Alexandre.
Non, mais ça va.
Je croyais qu'il avait fait 4 points le précédent candidat.
Non, il a fait 5.
Il en a fait 5. Il a fait Bachum, Britney Spears, MC Solar, Robert De Niro et Vianney.
Ouais.
Bon, je te prends pour la prochaine fois.
Bah, vous rejouez d'ici un mois, Nadège, avec plaisir, parce que vous êtes très sympathique. On vous embrasse. On vous embrasse tous les deux. Continuez à nous écouter.
À bientôt.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe avec Laurent Barra, Léa Lando, Jean-Philippe Bizini et Mickaël Quiroga qui nous expliquera pourquoi il est inquiet pour le climat.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga, Léa Londo, oui. Laurent Barra, oui. Jean-Philippe Bisigny.
Alors vous savez que le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, d'ailleurs qu'on recevra vendredi dans l'émission, a confirmé lundi une attaque internet de grande ampleur était en cours. Est-ce que ça vous fait peur? Vous pourriez vous passer d'internet? Pour quel usage vous l'utilisez le plus? Et qu'est-ce qui vous manquerait le plus en cas de blackout?
Oui, moi j'ai été piraté.
C'est vrai?
Depuis quelques temps, j'arrête pas de recevoir des mails pour des pubs pour agrandir la taille de l'engin. Et bah oui, bah j'ai fait ma petite enquête. Bah finalement, non, c'est ma femme qui me les envoie.
Mickaël qui regarde.
Oui.
Vous voulez nous parler des vieux?
Oui, Anne. Oui, Anne. Oui,
des vieux, bah, quoi?
Oui, oui, non, mais moi je le dis avec amour. Attention, je voudrais parler des anciens, des retraités, des pré-retraités. Bref,
senior.
Tous ceux qu'on appelle les vieux. Je le dis sans honte, moi, j'aime les vieux. Voilà, j'aime leur compagnie, j'aime parler avec eux. Alors d'accord, parfois il faut parler fort, mais j'aime leur conversation. Et de manière générale, on ne tient pas assez compte de l'expérience qu'ils ont accumulée. Nous, on est là, on croit tout savoir, mais les anciens, ils savent quand on dit une connerie. Et nous, on veut leur dire quoi faire, quoi manger, quoi boire, quand dormir, quand se lever. On les traite comme des enfants. Mais c'est nous, les enfants. Eux, ils ont connu De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et maintenant Macron. C'est vous dire qu'ils nous ont pas attendus pour en entendre des conneries. On dit aussi que les personnes âgées prennent trop leur temps, hein, dans la rue, à la caisse, en montant dans le bus. Alors, rectification, ils ne prennent pas leur temps, c'est juste qu'ils vont moins vite. Hein, ils se lèvent pas le matin en se disant tiens je vais ralentir tout le monde. Ça s'appelle ça s'appelle vieillir. Ils vont moins vite, ils ont des pertes de mémoire, ils sont dangereux sur la route. Bon bah voilà. Bon,
arrêtez de huer, on pourrait croire que vous êtes vieux.
Non mais c'est vrai. Ils vont moins vite, ils ont des pertes de mémoire, ils sont dangereux sur la route, mais finalement ils sont dans le même état que les jeunes quand ils fument des pétards. En fait, quand vous êtes vieux, c'est comme si vous étiez en permanence sous cannabis, c'est tout. Et puis, si vous croyez que c'est facile, moi je vois mon papy, avec l'âge, il a le dos raide, il a les jambes raides, il a les épaules raides, il est raide de partout, sauf là où ma mamie voudrait qu'il soit raide. Ah, mon papy, ce qu'il a de plus raide, c'est sa canne. Hein.
Mais t'en sais rien en même temps.
Ouais. Il y a le Viagra. Hein.
Je parle avec ma mamie. Alors, un autre souci lié à l'âge, c'est l'Alzheimer, bien sûr. Et justement, l'un des moyens pour lutter contre cette maladie, bah, c'est de les voir et de les garder. Et de garder au maximum leur cerveau occupé. Si les anciens se sentent seuls, ben c'est notre faute. Parce que bon, on vit des époques bizarres avec des vies prenantes. Du coup, on les laisse un peu tout seuls. C'est pour ça qu'en général, leurs meilleurs amis à nos anciens, ben c'est les amis à quatre pattes. Hein, c'est les chiens, c'est les chats, c'est les déambulateurs. Et puis,
tu vas remonter le moral des foules. Là.
Et puis, il y a rien de plus émouvant qu'un couple de petits vieux qui s'aiment. Quoi. Je veux dire, ils prennent soin l'un de l'autre. Ils sont là. Il y en a, ils sont mariés depuis 50, 60, 70 ans, des années de fidélité.
C'est mon rêve.
Et puis, il faudrait aussi arrêter de dire les vieux, justement. Tiens, non, c'est pas beau parce que dans leur tête, ils se sentent pas vieux. Donc, pour tous les anciens qui nous écoutent, sachez qu'il y a des gens qui vous comprennent ici, au sein de l'équipe d'Anne Roumanoff, et qu'on vous aime. Alors, je répète, j'aime les seniors et pas seulement parce que ce sont les seuls qui m'appellent. Encore jeune homme. Non. S'il y en a qui sont un petit peu découragés, j'ai qu'une chose à leur dire. Sortez de votre lit. N'oubliez pas ce que disait Mark Twain. Hein. Le lit, c'est l'endroit le plus dangereux du monde. 80% des gens y meurent. Donc alors, à tous les anciens, amusez-vous, profitez de la vie, sortez. Et si vous avez des problèmes de dents, d'audition, des problèmes de genoux, même des problèmes de hanches, ben que Dieu vous prothèse.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'ours polaire. J'ai appelé une clinique vétérinaire pour leur dire que j'avais un ours blanc chez moi.
Ah ouais ?
Clinique vétérinaire, bonjour.
Oui, bonjour madame, je voulais parler au docteur, s'il vous plaît.
Ils sont occupés là. Ah, parce Est-ce que je peux prendre un message ?
Moi, j'ai un gros problème, mais je ne sais pas s'ils connaissent cet animal.
Ah, je ne sais pas.
Ben, c'est un ours blanc.
C'est un ours blanc ?
Oui.
Ah oui.
Je pense que c'est un peu rare. En fait, c'est mon ami qui travaille dans un zoo qui me l'a ramené. Il est dans la baignoire actuellement. Mon ami m'a quitté.
Vous avez un ours blanc dans la baignoire ?
Oui.
Ah, écoutez, je vais demander à quelqu'un. Allô ?
Oui, bonjour madame.
Oui, bonjour. Donc en fait, vous avez un ours blanc ? D'accord.
Je sais pas, moi, si je peux vous le laisser devant chez vous en toute discrétion. Mais bon, en plus, me promener dans la rue avec l'ours, c'est pas évident.
Ouais.
Quoi. Puis on va me remarquer dans la rue avec un ours en laisse, c'est pas évident. Quoi.
Parce que vous pouvez.
Je suis en étage en plus alors.
D'accord, je vais voir là avec un des bétos, je vous rappelle tout de suite. Moi c'est Marilyn, d'accord ?
Marilyn.
À tout de suite.
fini. Il était énervé.
Oui, je... non, non, je veux parler à Marilyn, madame, c'est urgent.
C'est qui?
C'est la dame du... avec l'autre.
Oui, elle est en train de s'en...
Mais oui, mais non, là. Mais là, il s'énerve. Je suis dans un studio, j'ai... Allô? Peur. Oui, il s'énerve, oui. Mon ours. Regardez.
Ah oui, ouais. Bah, madame, il va falloir appeler les pompiers. Hein.
Les pompiers?
Ouais, sinon, il faut qu'on appelle le zoo.
Mais faut pas me dénoncer, quoi.
Vous pouvez me donner votre nom?
Ah non, je peux pas.
Il n'y a pas de solution. Vous donnez votre adresse et votre nom qu'on vous envoie les pompiers pour s'occuper de l'ours. Hein.
Mais moi, à ce moment-là, je peux peut-être disparaître, laisser la porte ouverte ou et je vais m'enfuir en fugue, quoi. Je vais être recherchée par Interpol.
Vous peut-être pas exagérer quand même, madame.
C'est à cause du film Home de Yann Arthus Bertrand. Il y avait des ours blancs qui étaient tellement mignons que je me suis dit, on va en adopter un. Puis il a voulu me faire plaisir.
Il faut être un peu inconscient, madame, hein, pour prendre un ours blanc. Vous savez la taille que ça, à l'âge adulte?
Je me rendais pas compte, mais c'était filmé d'hélicoptère, il était mignon sur la banquise.
Ah bah oui, c'est...
J'aime tellement les animaux.
Dans un film, mais enfin, dans la réalité, c'est un animal sauvage. Faut assumer un peu les conséquences des actes que vous avez commis.
Oui. Ou alors j'essaye de lui passer une laisse et puis je vous le dépose devant chez vous.
Non, mais rien du tout. Assumez les conséquences de vos actes. On va appeler les pompiers et les pompiers vont venir chercher cet ours.
Ah bon?
Faut être responsable un peu. Vous avez quel âge, madame?
24 ans.
Ah bah bravo, j'espère que vous n'êtes pas enceinte, que vous n'avez pas d'enfant, parce que la responsabilité, vous la connaissez pas trop, hein. C'est hallucinant, vous voyez un film et vous adoptez un ours blanc.
C'est Yann Arthus Bertrand, c'est...
Mais je m'en fous de Yann Arthus Bertrand, vous adoptez un ours blanc, madame. Faut un peu réfléchir.
Mais depuis 3 jours, il était mignon, ça se passait bien.
Bah oui, il y a un mois. Bon, allez, vous me donnez votre nom, votre adresse, s'il vous plaît, et je vous envoie les pompiers. Votre nom, s'il vous plaît.
Roumanoff.
Votre adresse?
Anne.
Non, mais vous rigolez là ou quoi?
À Europe 1.
D'accord, c'est une bonne blague.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Landau, Jean-Philippe Zini, Mickaël Quiroga, Laurent Barra et nos invités Anne Charrier et Nicolas Briançon pour la pièce Le Canard à l'Orange, actuellement au théâtre de la Michaudière à Paris.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Mes premiers invités sont comédiens, ils sont actuellement en couple au théâtre de la Michaudière dans Le Canard à l'Orange, un grand classique de la comédie des boulevards qui leur offre un boulevard pour faire rire les spectateurs. Applaudissons Anne Charrier et Nicolas Briançon.
Ouais, ouais.
Bonjour Anne Charrier, Nicolas Briançon.
Elle se crie sur elle-même.
Personne ne le savait.
Elle fait ça en scène aussi de temps en temps.
Donc Nicolas Briançon, vous êtes comédien dans la pièce et metteur en scène.
Oui.
C'est pas trop difficile.
Un malheur n'arrive jamais seul, vous devriez le savoir. C'est toujours comme ça.
C'est une pièce qui a beaucoup de succès. Tous les gens qui l'ont vue disent que c'est super drôle.
C'est une pièce géniale. C'est une pièce qui a quelques années maintenant, qui a été écrite en 69, je crois, créée par Poiret au début des années 70 en France, qui a été très souvent repris par des tas d'acteurs, Michel Roux, Rinaldi, etc. Donc je dirais que c'est un boulevard qui a fait ses preuves. Mais on a essayé de le traiter honnêtement, c'est-à-dire de le jouer à fond.
Donc ça se passe à quelle époque alors?
La pièce originale se passe en gros la fin des années 60, au début des années 70. Là, je voulais à la fois garder un peu dans son jus, garder aussi le spectacle dans son jus, c'est-à-dire garder l'image qu'on a du théâtre de boulevard, les trois coups, la présentation des comédiens à la fin, etc. Et en même temps, je voulais pas que ce soit non plus trop daté sur scène. Alors on a fait une espèce d'époque qui n'est pas une époque en fait.
D'accord.
Voilà. C'est bien, c'est clair comme
réponse.
C'est
très clair.
Moi ça me paraît pas mal.
Et Anne Charrier, c'est un bon metteur en scène, Nicolas Briançon?
Ah ouais. Très bon directeur d'acteur, et puis c'est quelqu'un qui aime jouer. Et donc on crée dans une grande joie, dans quelque chose de très ludique et de très... avec une vraie exigence autour du texte, c'est-à-dire qu'il reste très proche de ce qui a été écrit. On n'est pas du tout dans un effet, dans des effets de manche, on reste vraiment sur la sincérité des personnages, et là on a un texte hyper efficace. Et en plus, on a vraiment du plaisir à être tous ensemble, à jouer et à jouter.
Et c'est surtout que vous travaillez ensemble depuis des années, tous les deux.
Oui, c'était mon professeur.
Ah ouais, ouais. Oh, oui. Il vous a dragué, non?
Non.
Mais
non.
Qu'est-ce que c'est?
Pourquoi je demande?
Oui, t'as raison.
Non, non, il m'a fait travailler.
Ah ouais,
et il arrive qu'on arrive à avoir du travail, les comédiennes, sans avoir été draguées.
Ça arrive donc.
Non, alors je vais vous dire, j'aime beaucoup Anne et j'aime beaucoup les femmes en général, mais j'ai une chance, parce que je pense que dans le fond c'est une chance, une incapacité totale à draguer soit les élèves que j'ai eu dans les cours, alors là je trouve que ça serait encore plus terrifiant, soit avec les comédiens avec lesquels je travaille. J'arrive pas à mélanger ça. Voilà.
Bah, c'est bien.
C'est une chance parce qu'il y en a d'autres qui visiblement n'ont pas cette chance-là et à qui ça a tiré quelques...
Elle nous a pas souvent dragué. Hein. Non,
c'est vrai.
On n'a pas vu cette chance non plus.
C'est vrai.
Et c'est pas difficile de travailler avec une personne qui est hyper tête en l'air comme Anne Charrier. J'ai cru que vous alliez dire autre chose.
Non, d'abord...
Aussi douée, vous le savez,
d'abord,
je le
travail, elle n'est pas si tête en l'air que
non,
ça.
Non, c'est pas dans le travail, c'est vrai.
Il paraît que dans la vie, vous pouvez prendre, vous promener dans la rue, vous prenez la main d'un enfant qui n'est pas le vôtre.
Oui, oui, ça m'arrive.
C'est exceptionnel.
Ça m'arrive. Et
vous avez même posé la tête sur
l'épaule d'un homme qui n'est pas le mien,
non?
Oui, d'ailleurs, ouais, ça m'a beaucoup gêné.
Ce qui est une forme, crée des surprises chez beaucoup de gens, hein, parce que ça crée une surprise chez la personne sur laquelle vous posez la tête.
Chez sa femme.
Et sa femme qui, à côté, fait. Et moi, j'ai la chance d'être accompagnée par quelqu'un que ça fait beaucoup rire, donc qui est un peu atterré. Mais
parfois, elle dit aussi les répliques des autres.
Non, c'est pas vrai.
Quoi, c'est pas vrai?
Et vous, Nicolas Briançon, c'est la flûte enchantée qui a déclenché votre amour pour ce métier?
Mais vous savez tout.
Mon papa vous a amené au cinéma voir un film de Bergman.
Oui.
Et ça a changé votre vie.
Mon papa, qui avait un métier qui lui prenait beaucoup de temps, il était procureur de la République, donc on était assez loin des problèmes du théâtre. Moi, j'allais pas au théâtre, j'étais d'une famille où on n'allait pas au théâtre, voilà, on habitait la province et on y mettait rarement les pieds, même jamais, en ce qui me concerne. Et mon père, qui était très occupé, n'était pas franchement là. Et un jour, il m'a, je ne sais pas pourquoi, embarqué au cinéma pour voir La Flûte Enchantée, que Bergman avait filmé, l'Opéra de Mozart, donc que Bergman avait filmé pour le cinéma. Et c'est comme dans les histoires qu'on raconte ou comme dans les films, il y a avant-après, c'est-à-dire que je suis sorti de cette projection en me disant, mais... Donc il y a quelque chose qui existe, il y a un autre monde qui existe, qui est beaucoup plus intéressant que le vrai. Et je vais aller chercher par là. Et donc j'ai creusé autour de ça, mais de façon totalement.
Il paraît que vous aviez acheté tout seul des disques d'opéra, et votre mère disait mais qu'il arrête de gueuler celui-là.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle disait, votre mère?
Oui, elle rentrait dans ma chambre en disant mais qu'est-ce qu'il a gueulé celui-là?
Mais elle savait pas que c'était un disque.
Si, c'est que c'était un disque, mais trouvait que c'était trop fort, que j'écoutais l'opéra trop fort et que c'était. Et donc j'ai zoné.
Vous avez déjà mis en scène des opéras, Nicolas?
Non, mais alors je lance un appel. Vous me permettez?
Ouais,
j'en rêve.
Allez-y, lancez.
J'attends que ça. Je veux mettre en scène un opéra.
Gratuitement.
Non.
J'essaie de faire une petite annonce.
Mais, non, mais pourquoi?
Pour
non,
pas
non,
cher.
Non.
Bah si,
non.
C'est votre première expérience.
Mais il va pas se
cher.
Brader, il a du talent.
Mais non, mais non.
Pour cher.
Quel opéra?
Non, bah,
quel opéra?
Ah ben, si on me laisse vraiment le choix, j'avais le choix, ça serait Les Noces de Figaro.
Et vous pouvez pas le faire dans votre festival?
Non, c'est trop. D'abord, le problème de l'opéra, c'est extraordinaire, moi je trouve que c'est l'art suprême, mais le problème, c'est que ça ne souffre pas la médiocrité. Et donc, pour que ce soit bien fait, hélas...
Alors que le théâtre
Non, mais c'est... Il nous cache misère.
je regarde Jeanne Charrier, ça veut dire...
D'ailleurs, on se fait pas des petits coups quand on travaille avec des copains, par exemple, et je sais plus qui était venu nous voir en disant qu'il avait collé tous les objets du décor que son partenaire devait tirer.
On peut vous raconter une histoire?
Bah oui, avec plaisir.
François Vincentelli avait un mot, qui est le mot qu'il n'arrivait jamais à retenir.
Déraisonnable.
Déraisonnable. Et dans une réplique. Donc, il s'était fait une antisèche sur la table, côté canapé, avec marqué « déraisonnable » en gros. Et un jour, les régisseurs ont mis, sans faire exprès, la table de l'autre côté. Donc toute la salle, vous voyez, déraisonnable. Mais en revanche, François, lui, n'arrivait pas à lire déraisonnable.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec nos deux invités, Anne Charrier et Nicolas Briançon, venus nous parler de la pièce Le Canard à l'Orange, actuellement au théâtre de la Michaudière à Paris.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Jean-Philippe Vizini, Lalonde, Laurent Barra, Mickaël Quiroga et nos deux invités Anne Charrier et Nicolas Briançon pour la pièce Le Canard à l'Orange, actuellement au théâtre de Michaudière. Vous attendiez un tel succès, Nicolas Briançon?
Ouais, je m'attends à rien, moi. Vous savez, je crois que les succès doivent nous rendre extrêmement modestes parce que très profondément, je pense qu'ils nous échappent. pour la plus grande part. Et de même qu'on devrait relativiser aussi nos échecs, parce que parfois ils nous échappent aussi. Je pense qu'on met parfois la même dose de talent, d'investissement, de travail dans un succès que dans un échec. Et puis de temps en temps, les gens en veulent, et puis de temps en temps, ils n'en veulent pas. Et pourquoi ils en veulent et pourquoi ils n'en veulent pas, ça reste encore pour moi un mystère absolu.
Anne Charrier, vous avez compris ça, le succès, l'échec ?
Non. Mais j'y passe pas beaucoup de temps non plus. Hein. Je suis assez fataliste, moi, sur les. J'y vais avec tout mon. Je traite chaque projet avec la même envie et la même passion. Et effectivement, on est bien sûr qu'on est triste d'un échec. On est triste que ce ne soit pas reçu. On est triste que les gens ne voient pas quelque chose dans lequel on a mis quand même nos tripes à chaque fois. Mais voilà, ça fait partie du spectacle vivant. Ça fait partie de notre travail. Il faut l'accepter et il faut toujours en retenir quelques. Il y a des échecs qui sont une grande école aussi.
Ouais. Et puis tout calcul dans ce domaine-là est voué à l'échec. Ouais. Ça marche pas. Parfois, vous avez des spectacles qui fonctionnent de façon incroyable, alors que sur le papier, tout indiquait que ça allait être
et le contraire.
Le contraire. J'en profite pour faire un petit salut. Mais j'ai monté Voyage avec ma tante il y a 3 ans au Théâtre de la Pépinière. C'était un 19h, 4 acteurs que le grand public ne connaît pas. Un roman anglais que plus personne ne lit. Ça a été un carton. On l'a joué 2 saisons entières. Un Molière à l'arrivée. On le reprend là au Théâtre Héberto.
Et ça continue de marcher.
Et on se dit, mais alors ça marche. Et puis de temps en temps, à côté de ça, on met en scène des trucs, des grosses vedettes dans des pièces, etc. Et parfois les spectacles sont bien, c'est pas toujours lié à la qualité du spectacle, et ça ne prend pas, et les gens n'ont pas envie de venir. Et ça, cette explication-là, on l'a pas, et je dirais heureusement, parce que sans ça, on appliquerait tous des petites recettes de cuisine pour faire nos spectacles, mais ça n'aurait plus aucun intérêt. Il faut garder aussi ce mystère-là.
Et en parlant de recettes de cuisine, le canard à l'orange, on l'a même pas pitché. Quelqu'un peut raconter l'histoire?
Alors, non, c'est Nicolas qui va le faire parce que c'est lui le metteur en scène.
Non, un mari découvre que un mari un peu volage.
Oui, hein, c'est vous. C'est animateur moi, de télé célèbre.
Découvre que sa jeune et ravissante femme.
C'est moi.
Anne Charrier.
Va partir. On est le vendredi. Va partir le dimanche
avec un homme 11 ans plus jeune
que moi. Oui. Ouais. Ce qui est une faute de goût déjà. Et elle va partir le dimanche. Donc il lui dit, invitons ton amant le samedi, il passera la journée avec nous. Je vais prendre tous les torts du divorce à ma charge, parce que j'ai quand même été un mari particulièrement inconsistant. Et vous partirez dimanche ensemble. Voilà. Et faisons ça dans une espèce de bonne entente. Elle finit par accepter cette idée au début de la semaine. Et il invite aussi sa secrétaire en disant on fera un flagrant délit d'adultère avec elle. Et comme ça, je paierai le divorce. Et puis, il va retourner la situation en un week-end.
C'est un joueur d'échecs.
Voilà.
Jean-Philippe Vizinet a des choses à vous dire, parce que lui, il pense que sa femme le trompe, mais il voudrait des conseils.
Mais je suis catastrophé, parce que on avait tout pour être heureux, ma femme et moi. On était un couple parfait, 2 enfants... Un petit pavillon de banlieue avec un crédit sur 25 ans, une Mégane scénique, le bonheur, le soir, le samedi soir, on regardait The Voice, le dimanche, Zone Interdite, la vraie vie, quoi. J'arrive pas à comprendre ce que ma femme peut vouloir de plus, quoi de plus. Parce que l'autre soir, j'ai fait ce qu'aucun homme ne doit jamais faire, j'ai fouillé dans son agenda. Et ben, elle me trompe tous les jours. Avec un mec différent à chaque fois. Lundi, 14h30, elle a eu rendez-vous. J'ai même le nom du gars. Il s'appelle Yves Rocher. Yves Rocher, c'est un nom de vieux, ça, en plus. Elle doit être avec lui pour son argent. C'est horrible. Anne Roumanoff, quand je vous dis qu'il faut m'augmenter, vous voyez où on en est maintenant à cause de vous. Hein. Bref, elle s'est pas arrêtée là. Après, Yves Rocher, elle est partie voir un autre gars. Jean-Louis David. 2 mecs dans l'après-midi. Elle se tape 2 mecs dans l'après-midi. Après, le soir, elle me fait le coup de la migraine, celle-là. Le soir, elle rentre. Elle me dit, j'ai pas faim, je me suis arrêtée chez Paul. Et 2-3, ben ouais, hein. Alors moi, comme je fuis un peu les conflits, j'ai rien dit. Mais dès le lendemain, ça a recommencé. Le soir, elle est arrivée en retard. Au bout d'un moment, j'ai craqué. Tu vois. Je l'appelle, je lui dis, t'es où ? Elle me dit, j'ai voulu te faire plaisir, je suis passé chez Nicolas. Je dis, mais pour me faire plaisir, mais vous rendez compte de la perversité de cette femme ? En plus, elle assume, hein. Il y en a peut-être que ça excite de partager leur femme, mais moi, pas du tout, hein. Et le pire, c'est qu'elle me pousse à l'adultère, elle aussi. Elle m'a mis un post-it sur le frigo avec écrit « Ce soir, ne m'attends pas. Si t'as faim, va faire un tour chez la comtesse du Barry. » Moi, je la connais pas, cette coquine. Du coup, j'ai fait plus simple, j'ai rappelé une ex. Ma femme, elle est rentrée plus tôt que prévu, elle nous a trouvés tous les deux sur le canapé. Et ben, elle a trouvé le moyen de me faire la gueule, celle-là. Vous vous rendez compte comme quoi, dans un couple, et ben, moins on en sait, mieux on se porte.
Merci à Nicolas Briançon, Anne Charrier d'être passé nous voir. On rappelle votre pièce au théâtre de la Michaudière, Le Canard à l'Orange, avec François Vincentelli, Sophie Arthur
et Élise Dufour.
Élise Dufour, Nicolas Briançon, Anne Charrier. Merci à vous.
Merci à vous.
Beaucoup. On se retrouve dans quelques instants avec Stéphane Guillon qui sera notre invité. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Jean-Philippe Busigny, Laurent Barra, Mickaël Quiroga et notre invité, l'enfant terrible de l'humour français, connu pour sa liberté de ton, son irrévérence lui a apporté le succès, mais aussi quelquefois le chômage. Acide et insolent dans ses chroniques, drôle et ironique sur scène, émouvant dans la pièce, inconnu à cette adresse. Il se demande souvent si on peut encore rire de tout. La réponse est oui, si on en croit la fidélité de son public. Il vient de parler de son spectacle Premiers Adieux. Stéphane Guillon est avec nous ce matin sur Europe 1.
Bonjour. Merci.
Bonjour Stéphane Guillon.
Merci pour cette belle introduction, Anne.
Je vous ai bien introduit.
L'enfant terrible.
Je vous ai bien introduit.
Oui, si vous voulez, oui.
Vous aimez qu'on vous introduise?
Ah, ça y est, c'est bien.
Il n'y a même pas, un tour de chauffe, rien du tout.
Non, de suite. Je n'ai pas du tout l'esprit mal placé.
Ah, bah non, mais c'est lui qui a dit introduire. Moi, j'ai rien dit.
On introduit quelqu'un.
Mais complètement.
Absolument.
Stéphane Guillon, votre nouveau spectacle prend la forme d'un pot de départ. À qui vous voulez dire au revoir? Est-ce qu'il y a des chips? Parce que s'il y a des chips, je viens. Non mais moi il y a pas de piège, pas de perfidie dans mon humour. Tout est en tendresse, en bienveillance.
Vous
connaissez ce mot bienveillant, Stéphane?
Écoutez, ça fait longtemps que je l'ai pas pratiqué. Non, il y a pas de, il y a ni à manger ni à boire,
oui.
Mais il y a plein de plats sinon. Des plats de résistance.
On va vous laisser, non?
Et pourquoi ce pot de départ votre employeur, c'est le public, et lui, il vous a jamais viré, le public, Stéphane Guillon?
On ne sait pas, peut-être qu'il va finir par me virer, le public, on ne sait jamais, il ne faut pas désespérer. Non, disons que c'est un spectacle qui est une sorte de bilan, voilà. Au bout de 28 ans, j'avais envie de faire un bilan, de voir où j'en étais, moi, dans...
Vous savez, de plus en plus, une voix snob, non?
À vous trouver?
Oui.
Bah écoutez, je sais pas, je vais pas. Vous voulez que je parle comment pour vous plaire alors?
Bah un peu plus, parce que là c'est un peu comme ça.
Routier, s'il vous plaît.
C'est malheureusement mon éducation, vous savez, je suis né à Neuilly-sur-Seine, moi, on se refait pas. Hein. Ah, ouais. Famille de Versaillaise, voilà.
Vous le regrettez?
Ben, j'en parle justement dans mon spectacle.
Vous dites que vous avez eu une enfance heureuse et que c'était un problème?
Voilà, femme de ménage à la maison, cours privé, vacances au ski, j'ai ma flèche, j'ai rien à dire. Père Versaillais, mère niçoise, un pédigré à faire jouer Éric Zemmour.
Mais vous avez des difficultés quand même, parce que vous étiez nul à l'école.
Disons que j'étais inapte au système scolaire.
Oui. Vraiment? Parce qu'en plus, quand on vous voit comme ça, mal en parler comme ça, on croit que vous avez fait plein d'études.
Non, mais disons que je pense qu'on est victime de son éducation. C'est-à-dire que voilà, moi, j'étais dans un milieu artistique, de marchand de tableaux, très bourgeois, finalement. Donc, je parle comme mon grand-père, je parle comme mon père.
Oui, mais comment ça se fait que vous n'arriviez pas à l'école alors? Parce que vous êtes très intelligent, Stéphane Guillon.
Mais j'ai lu justement quelque chose. Merci, Anne Roumanoff. J'ai lu quelque chose là-dessus, que finalement, au-delà d'une certaine intelligence, on devenait inapte au système
scolaire.
Vous
étiez trop intelligent.
Peut-être, voilà.
Je vais le noter pour ça.
En tout cas, c'est une théorie qui m'a séduite.
Vous êtes aussi inapte au système médiatique aussi. Pourquoi? Parce que vous êtes fait virer beaucoup.
C'est peut-être le système médiatique qui est inapte à moi.
Non, mais est-ce que vous n'étiez pas aussi trop intelligent là aussi? Il y a un moment où vous lâchez pas, en fait. Vous courbez jamais les chines, Stéphane Guillon.
Je pense que, je sais pas, enfin, quand on pratique mon humour, courber les chines, ce serait tout d'un coup arrêter de faire son métier. Donc, ça pose réellement une difficulté. C'est-à-dire que si l'humour doit s'arrêter à mes intérêts ou à ceux de mon patron, de mon employeur, moi, j'estime que je fais plus mon travail. Donc, moi, finalement, Vous savez, souvent, on dit qu'on est viré pour les raisons pour lesquelles on vous engage, mais c'est très vrai. C'est-à-dire que moi, quand on m'a engagé à France Inter, on m'a dit « ta carte blanche, vas-y à fond, fais-toi plaisir ». Moi, je me suis fait plaisir.
Et ça ne leur a pas fait plaisir?
Il faut croire qu'à un moment donné, non.
Alors Stéphane Guillon, ce spectacle est coécrit avec votre femme, Muriel Cousin. Ça se passe comment? Qui écrit quoi? Qui est le plus drôle dans le couple?
Bah, moi, j'écris et...
elle vous donne son avis ?
Muriel me donne son avis, souvent elle me donne des angles. Qui est le plus drôle, je ne sais pas. Qui est le plus intelligent, je sais, c'est Muriel. Ça, je l'ai toujours dit, oui. Elle est plus rapide que moi, plus...
Plus vive ?
Plus vive, oui. Ah ouais.
Mais vous êtes rapide aussi, vous, non ?
Mais, oui, mais on trouve toujours plus rapide que soi.
Ah, un petit compliment, quoi.
C'est rapide. Ce qui vous a séduit chez elle, d'ailleurs, sa vivacité d'esprit.
Vous dites que vous êtes désintéressé du coup du parcours scolaire de vos enfants parce que vous n'auriez pas de légitimité, parce qu'ils savent que vous avez été un cancre. Et donc,
C'est-à-dire que moi, j'étais très en colère par rapport à ce qu'on me proposait à l'école. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai été tout de suite contre, rétif. Et je pense qu'il faut adapter le système scolaire à l'enfant qu'on a en face de soi. Et moi, l'école m'a braqué, donc j'étais un cancre. Et voilà, et du coup, j'en veux à l'école de pas, parce que je trouve que c'est les années merveilleuses jusqu'à 10, 11 ans, toutes ces années où t'es une sorte de, voilà, t'es une éponge. Donc, on devrait nous apprendre les langues étrangères qu'on nous apprend pas, les Français parlent pas les langues. On devrait nous apprendre la musique, on le fait pas. L'art de la diction, on le fait pas. Tout ce qui est intéressant, finalement, on nous emmerde avec des équations second degré. Personne n'est capable aujourd'hui autour de la table d'en faire une. Donc, on nous gâche nos plus belles années. Donc, par rapport à ça, moi, j'ai dit à mes enfants, démerdez-vous, je me désintéresse de vos études. Et donc, rien que pour m'emmerder, ils sont tous bacheliers en fac. Et tout.
Qu'est-ce que j'aurais aimé que vous soyez mon père.
Et donc, vos enfants sont bons à l'école, Stéphane Guillon.
Oui, Anne Romanoff. Je sais pas comment vous n'avez pas trop lu mon entier depuis
tout à
l'heure.
Parce que c'est pour que les gens, quand ils prennent l'émission en cours, ils sachent
mais
qui
parle. Mais personne ne prend votre émission en cours. Tout le monde la prend dès le début, enfin.
Ah, c'est très gentil. Europe 1. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Stéphane Guillon, venu nous parler de son spectacle Premiers adieux, actuellement en tête de la Pépinière à Paris, du mercredi au samedi à 19h. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Jean-Philippe Vizini, Lalonde, Laurent Barra, Mickaël Quiroga et notre invité Stéphane Guillon, qui nous parlait de son spectacle Premiers adieux à la Pépinière Opéra actuellement du mercredi au samedi à 19h. Alors, donc ce spectacle, ce sont des faux adieux, mais quand auront lieu les vrais adieux, Stéphane Guillon?
T'es pressé ou quoi?
Peut-être que ces premiers adieux vont se transformer en véritables adieux. C'est ce que je dis à un moment donné, parce que je parle de tous les gens qui ont fait les adieux. Je parle d'Aznavour en disant que
Aznavour
a fait ses premiers
fois.
Adieux à 65 ans et qu'on connaît la suite. Et je dis, Mireille Mathieu aussi a fait ses premiers adieux à 65 ans. Elle, pour le coup, ça a trop bien fonctionné. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours se méfier de ce genre de coquetterie. Je m'en vais, retenez-moi, et bien non, barre-toi.
Alors, vous dites, Stéphane Guillon, que du coup, vous vous réservez pour la scène. Non, vous ne voulez plus vous exprimer sur les réseaux sociaux et tout ça, parce qu'on déforme tout.
Je trouve qu'on est trahi, oui, énormément.
Parce que la pensée est schématisée, on réduit les choses à des...
Oui, enfin, moi, à 5 ou 6 reprises, j'estime que j'ai vraiment été trahi et que ces polémiques m'ont fait du tort. Je pense qu'on a tous besoin de travailler à un moment donné. Et quand on se rend compte, c'est ce que je disais, que les 5 Français les plus populaires, et c'est les gens qui ouvrent jamais leur gueule. Vous prenez le classement des 50 Français, et voilà, c'est des gens qui ne disent rien, quoi, quel que soit le sujet, même quand il y a des choses graves, vous les entendez pas. Donc ça pose question. Je pense que moi, je vois, ça fait 1 an et demi que je dis plus rien. Je n'ai jamais eu autant de propositions de boulot, et puis j'ai l'impression que je redeviens fréquentable.
Et alors, c'est tentant de rien dire finalement?
Non, je pense que ce qui est tentant, c'est de dire des choses à bon escient et de les dire dans un espace où finalement vous n'êtes pas trahi. Parce que moi, les gens qui viennent me voir, ils payent, ils choisissent de venir me voir, je ne m'impose pas à eux. Mmh. Donc, et puis il y a des choses que je dis au bout d'un quart d'heure de spectacle que je ne dirais pas, que je ne dirais pas au début. Et pareil, au bout d'une demi-heure, on arrive finalement, on prépare le public à entendre des choses. Il y a une évolution dans un spectacle.
Il y a des préliminaires.
Il y a ce qu'on appelle, oui, bravo, c'est bien.
Ça fait moins mal, d'accord.
Exactement, c'est bien.
Alors vous pensez qu'on avait plus de liberté avant ou alors juste que le curseur a changé pour certains thèmes ou quoi alors?
Non, je pense que chaque époque a ses libertés et ses interdits. Il y a des choses qu'on peut dire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas dire à l'époque des proches ou de Leluron il y a 30 ans.
Et l'inverse.
A contrario, je pense que ce qui a vraiment changé maintenant, c'est le traitement de ce qu'on dit par les réseaux sociaux et bah, tout ça. Je veux dire, c'est-à-dire qu'on prend des petites phrases qui sont extraites. Moi, je dis des choses Par exemple, sur les gilets jaunes, dans mon spectacle, si je l'ai dit chez vous, on va dire « Ah, Stéphane Guillon dit ça sur les gilets jaunes », et tout d'un coup, on va dire « Stéphane Guillon insulte les gilets jaunes ». C'est évident que je ne les insulte pas. Et c'est évident que je dis des choses sur les gilets jaunes, parce qu'avant, j'ai des choses sur Macron dans mon spectacle. Mais si vous n'avez pas le début de ce que j'ai dit, si vous avez juste la phrase, on peut penser, on se dit « Mais pourquoi il dit ça? C'est pas drôle, c'est agressif ». Voilà. Donc je pense que ce qui nous trahit aujourd'hui, finalement, c'est ça. C'est la petite phrase qui est sortie de son contexte. Moi, je cite souvent quand on dit que j'ai dit que Martine Aubry, que j'avais traité Martine Aubry de petit pot à tabac, dans le texte, quand vous reprenez le texte, je dis exactement le contraire. C'est-à-dire, c'est un texte qui dénonce la violence verbale dont était victime Martine Aubry quand elle était quand elle se présentait au poste de secrétaire du PS, premier secrétaire du PS. Donc, ce texte dit le contraire. Et on a pris cette phrase, on a dit que Stéphane Guillon traite Martine Aubry de petit pot à tabac. Mais c'est évidemment, c'est insensé.
Et vous pensez que c'est des gens pas intelligents ou mal intentionnés qui...
Non, c'est l'économie du clic maintenant. Ouais. C'est ce que disait Laurent Ruquier il y a quelques jours, mais je suis tout à fait en accord avec lui. C'est-à-dire que ces sites d'infos, finalement, qui ont vachement de mal à vivre, se tirent la bourre. Mmh. Et pour nous attirer, nous, sur les réseaux sociaux, ils mettent la petite phrase.
Ouais.
C'est donc,
voilà. Vous avez pris du recul par rapport à tout ça, Stéphane Guillon, maintenant?
Bah, la preuve, c'est que je m'exprime moins et c'est que je réserve...
Non mais par rapport aux attaques dont vous avez été l'objet, maintenant vous les regardez avec un recul philosophique ou ça vous fait toujours autant de peine quand on vous attaque ou...
Non, moi ça me fait pas de peine, ce qui m'énerve c'est l'injustice. Ben, sinon, je pense que de toute façon, quand tu fais ce métier, quand tu donnes des coups, tu dois... Je prends souvent l'exemple de la boxe, mais quand tu donnes des coups, tu dois savoir en prendre. On aurait mauvaise grâce finalement à balancer des choses et à ne pas accepter d'en recevoir. Enfin, on le sait que les humoristes sont souvent des gens qui n'ont aucune espèce d'humour sur eux-mêmes.
Vous avez remarqué ça?
Ah oui. Mais moi, je me suis soigné.
C'est vrai?
Ah non, ouais, vachement. Ah non, peu. Hein. On n'arrête pas de vous en balancer,
ah ouais,
ça va.
C'est
hein.
Vrai.
Jamais une remarque, rien.
Mais parce que Anne a compris que l'autodérision, finalement, c'est très malin, l'autodérision aussi.
Bien sûr.
Il faut la pratiquer. Moi, je la pratique à la fin de mon spectacle, où je fais des imitations et les gens disent du mal de moi. Mais... Finalement, il faut être capable aussi de se chambrer soi-même.
C'est vrai que vous imitez bien certaines personnes, quand même.
Oui.
Vous n'avez jamais voulu en faire...
Non, parce que je ne suis pas imitateur. Ouais. Moi, j'ai une dizaine de voix, une quinzaine. Ouais, alors que des gens comme Canteloup, ils ont 100 voix.
Ouais, mais vous en avez quand même déjà parfaitement bien.
Ah ouais, il y en a que vous maîtrisez parfaitement.
Oui, mais dans ma tessiture, donc je me conçois pas comme étant un imitateur. Gérard est un imitateur, Canteloup évidemment aussi.
Vous pouvez juste nous en faire un qui dit quelque chose sur vous.
Là, Guillon, c'est intéressant. Premiers adieux, dernière retrouvaille, ultime fumisterie. L'intrabilaire de gauche tire sa révérence. Quand il n'est pas viré de quelque part, Guillon se vire lui-même. L'enfumage dans toute sa splendeur.
Ah,
c'est bien, Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Stéphane Guillon, venu nous parler de son spectacle Premiers adieux, actuellement sur la scène de la Pépinière à Paris, du mercredi au samedi à 19h.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Jean-Philippe Dizini, Léa Landau, Laurent Barin, Mickaël Quiroga et notre invité Stéphane Guillon, venu parler de son spectacle Premiers adieux, actuellement à la Pépinière Théâtre, c'est ça?
Oui.
J'ai tout bien dit, Stéphane Guillon?
À 19h, rue Louis-le-Grand.
Très bien.
Métro, opéra.
Jusqu'à quand?
Jusqu'à la mi-avril.
Alors, vous aimez bien, est-ce que c'est pas fatigant à la fin d'être tout le temps insolent? Parce que vous vous rebellez contre les rebelles. Est-ce qu'il vous arrive d'être tellement dans votre personnage que vous ne vous supportiez plus vous-même?
Vous avez 4 heures.
Non, mais je le dis souvent que je suis ma première victime. Quand les spectateurs dans la salle, ils font « Oh !» Je leur dis « Mais attendez, vous savez, moi, parfois, j'écris des trucs aussi, je suis ma première victime. Je lis, ça me... »
Ça vous contrarie.
Ça me contrarie aussi, il ne faut pas croire, je suis sensible.
Stéphane Guillon, Laurent Barra a pris votre défense.
Ah, pour une fois.
Ouais. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs du jury, mes chers collègues chroniqueuses et chroniqueurs, on ne va pas se mentir, l'affaire est grave. Tel est le lendemain de raclette avec en dessert une panna cotta maison avec un supplément chantilly. L'ambiance promet d'être pesante. Pour nos fidèles auditeurs installés derrière leur poste de radio, le temps s'est arrêté. De Calais à Paris en passant par Toulouse, Mordelieu-la-Napoule ou Sucy-en-Brie, les salariés ont multiplié les arrêts maladie et les demandes de RTT. À l'Élysée, Nemo, le chien d'Emmanuel Macron, n'a pas touché à sa pâtée. Les iPhones sont à faune, les orgasmes sont silencieux. L'homme passionne, il est là. Il est de retour, mais pour combien de temps? Nous ne le savons pas, puisqu'il a annoncé qu'il allait très bientôt célébrer son pot de départ avec son nouveau spectacle nommé étrangement Premiers Adieux. Lassitude pour les uns, provocation pour les autres. Ce qui est sûr, c'est que mon client ne laisse personne indifférent. Alors sans plus attendre, Madame la Présidente, plongeons-nous, si vous le voulez bien, dans l'affaire Stéphane Guillon. Mon client est accusé aujourd'hui, justement, d'être un incorrigible provocateur. Accusation à laquelle nous plaidons, bien évidemment, coupable. Car qu'y a-t-il de plus beau, de plus noble que de provoquer des sentiments, des émotions, de la réflexion, de l'indignation dans une société envahie par la censure populaire pour laquelle le mot rire ne rime plus du tout avec le mot dire. Et mon client en a des choses à dire. Et on l'aime ou on le déteste justement pour cette recherche de sens. Cette façon de repousser sans cesse ses limites. Là où d'autres plus frileux se demanderaient si un smartphone dont le code PIN se fait par reconnaissance faciale reconnaîtrait quand même son utilisateur si celui-ci faisait des injections de Botox. Non, 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 non. Mon client recherche le sens. Cette recherche permanente de sens a évidemment un prix. Licenciement, commentaires acerbes sur les réseaux sociaux, réputation de trublion, du paf, à qui certains voudraient bien bourrer le pif. Éternel provocateur. Alors, à la vue de tous ces éléments, Madame la Présidente, je réclame la clémence de la Cour pour que ses premiers adieux ne soient surtout pas les derniers et qu'il trouve la lumière qu'il mérite à la pépinière. Lumière qui, en Corse, se dit Lumio, prénom du chien de monsieur, de mon client, qui a disparu et j'espère vraiment que vous le retrouverez. Quant à nous, arrêtons de nous offusquer de tout et rions, tout simplement. Mieux que ça, Guillon à gorge déployée.
Stéphane Guillon, vous dites que votre liberté de ton vous a coûté cher, mais en même temps, la liberté, ça n'a pas de prix.
La liberté, ça n'a pas de prix, c'est vrai, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez fait, c'est une question, il y a la réponse dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous...
Bah, le prix, combien ça coûte?
le prix à payer, c'est ouais, c'est, je l'ai dit tout à l'heure.
Quelques
peut-être,
licenciements.
Vous avez perdu des revenus, alors, quand même?
Oui, j'ai perdu des revenus. Mais
alors, combien on veut les chiffres?
Les revenus, on s'en fout, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important.
Vous avez quand même 7 enfants à nourrir.
Oui, mais il y a un moment, ce qui est... je pense, à un moment donné, perdu du travail. Voilà.
Ouais. C'est-à-dire, c'est
quand vous êtes clivant, vous travaillez moins. C'est comme ça.
Et maintenant, vous êtes moins clivant.
Alors maintenant que je ferme ma gueule,
vous êtes déclivé.
Je suis déclivé, je travaille plus. Voilà.
Ah, bah, il faut le dire aux gens. On va lancer un message que vous êtes déclivé.
Je suis déclivé.
Là, il y a Gulli qui tient à vous, là, apparemment. Il y a un truc qui se libère.
Et alors, vous dites aussi que vous avez refusé des rôles au cinéma. Des fois, il y a des.
Ça,
oui, vous avez dit que, par exemple, Claude Berry voulait faire un film avec vous. Et vous
l'avez... Ah oui, mais Claude Berry, d'abord, c'était une rencontre absolument incroyable que je n'ai pas le temps de raconter ici.
Si,
mais
on a le temps.
Il venait de faire son attaque cérébrale et il était très diminué. Et il est venu me voir au Théâtre Trévise, rue Trévise, jouer au deuxième horaire. Et j'ai vu Claude Berry, géant du cinéma français. C'était en 2006. J'étais inconnu au bataillon. Enfin, c'était mon premier petit succès au Trévise. Et j'ai vu ce monsieur qui est venu dans ma loge et qui m'a dit « J'ai envie que vous écriviez un film pour moi ». Et voilà, je trouvais ça incroyable alors qu'il était effectivement très fatigué. Et il m'a dit, je vous ai remarqué, je vous ai vu dans une émission de variété sur mon lit d'hôpital. Je me suis dit, waouh, le mec, quoi. Voilà, bon.
Et vous n'avez pas donné suite?
J'ai pas donné suite parce que il a fait d'autres choses, moi aussi, et puis qu'on n'a pas trouvé le projet. Mais bon, j'ai trouvé qu'en tout cas que c'était quelqu'un qui m'a vraiment étonné et de passionné. Après, non, des rôles, j'en ai pas refusé.
Vous avez fait plein des téléfilms, je savais pas que vous en avez fait autant.
Ouais, j'ai fait pas mal de trucs, mais j'adore ça, moi.
Ah oui?
Ah, j'adore ça.
Et surtout, maintenant, vous pouvez jouer des rôles de bienveillant.
Mais là, je joue un rôle d'un flic.
Un flic dans une série télé, c'est ça?
Ça s'appelle Le Bazar de la Charité, et ça sera diffusé, je pense, en octobre prochain. C'est une série historique, d'après un fait divers réel. Et c'est avec Josiane Balasco, Antoine Duléry, Gilbert Melki, Audrey Fleurot,
flic.
Aignon, personnage historique. Aignon étant le gars qui avait créé les Brigades du Tigre.
Oh. Ah, donc ça se passe dans les années 20.
Ça se passe au début du cinématographe.
Ah oui, mais là, vous avez une tête de cette époque-là.
Bah voilà, c'est ça.
On attendait le compliment.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec Jean-Philippe Bizigny, Lalando, Laurent Barra, Mickaël Quiroga et notre invitée Stéphanie Guillon, venue parler du spectacle Premiers Adieux du mercredi au samedi à 19h au théâtre de la Pépinière à Paris.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Sur Europe 1 ce mercredi avec Jean-Philippe Busigny, Léa Londo, Laurent Barra, Mickaël Quiroga et notre invité Stéphane Guillon. Vous êtes très manuel, Stéphane Guillon ? Vous faites l'électricité, le carrelage, tout ça ?
Ouais, je fais pas mal. Moi, j'aime surtout jardiner maintenant.
Ah oui ?
Oui.
Vous avez acheté des roses.
J'adore cette émission.
Vous avez acheté des roses de Noël.
Entre autres, oui,
des
roses de Noël.
Oui, parce qu'il paraît que ça vous met en joie, les roses de Noël.
Bah parce que ça fleurit à Noël, qui est quand même en novembre, ou vous voyez, quand le jardin est triste.
En fait, vous avez une vraie douceur, Stéphane Guillon, une hypersensibilité.
Je vais peut-être m'allonger sur la table.
Vous avez déjà fait une psychanalyse ?
Jamais, mais il n'est peut-être pas trop tard pour en démarrer
une. Vous pensez
que
vous avez des problèmes ou non, ça va ?
Je pense que nous avons tous des problèmes.
Oui, plus ou moins, mais si
vous. Et vous surtout.
Moi, je suis un problème ambulant. Oui. Allez, Léa Londo a des questions à vous poser, Stéphanie.
Oui, Stéphane Guillon, alors votre spectacle Premiers Adieux signifie donc qu'il y en aura d'autres, puisque j'ai connu les premières ruptures et malheureusement, elles n'ont pas été les dernières. Quoi qu'il en soit, je me suis prêtée au jeu de croire en ces adieux. Et je vous ai préparé une interview comme si c'était la toute dernière, Stéphane Guillon, comme si votre carrière venait de mourir. Alors, Stéphane Guillon, cette carrière qui vient de nous quitter, en êtes-vous fier ?
Pas de tout.
Pas de tout ?
Non.
Stéphane Guillon, que souhaitez-vous que les gens retiennent de votre carrière qui vient de s'éteindre ?
L'honnêteté, voilà.
L'honnêteté, ouais. Et que souhaitez-vous qu'ils oublient d'elle ?
Peut-être mes débuts, ouais.
Mes débuts ?
Ah ouais, j'ai tellement galéré en plus.
Ah ouais ?
Oui.
Bon, en même temps, il faut passer par là.
Vous avez eu un premier rôle à 17 ans ? Vous avez été dans un cours de théâtre trois mois
après ? Oui, j'ai eu mon premier rôle à 17 ans, mais après, le deuxième est arrivé à 37.
Le deuxième
est arrivé à 40. 20 ans plus tard, c'est ça le problème.
C'est bien de ne pas avoir abandonné. Stéphane Guillon, aimeriez-vous chanter à votre carrière lors de la cérémonie funeste ? Ne me quitte pas ou je suis venu te dire que je m'en vais ? Parce que tout dépend de qui décide.
Je suis venu te dire que je m'en vais, ouais, c'est plus rock quand même.
Ouais. Mmh. Bon, ne plus pouvoir faire des vannes sur la politique, c'est pas un peu comme prendre des insultes sans pouvoir se défendre ?
C'est-à-dire que la politique, c'est ce que je dis à un moment dans le spectacle, c'est-à-dire que j'ai eu de tels clients pendant des années, DSK, Sarkozy, quand t'as joué aussi longtemps en Division 1, t'intéressais à un club de National 2. Ouais, c'est vrai que là, il a ringardisé tout, il a mis un énorme coup de pied dans le bazar. Et c'est vrai qu'on avait des super clients et que maintenant, je veux dire, écris-moi un sketch sur Christophe Castaner, bah non, tu vois, j'ai plus de vie. Donc c'est quand même très compliqué. Ces gens-là n'impriment pas. On nous avait dit, non mais vous inquiétez pas, dans un an on connaîtra leur nom. Bah non, on les connaît toujours pas, ou si peu.
Vous pensez qu'il y aura du monde à l'enterrement de votre carrière, Stéphane Guillon ?
Ah, personne à mon avis.
Personne ? Non, quand même pas.
Vous avez des amis dans ce métier ?
Aucun.
Bah si, moi...
Oui, oui.
Non, franchement, parce qu'il y a un truc que je tiens à dire, moi, quand j'ai débuté, parce qu'on dit qu'il est méchant et tout, mais quand j'ai débuté, dans l'équipe où je suis arrivé, il y avait Stéphane Guillon, et quasiment c'est le seul qui m'a accueilli, qui m'a donné des conseils, et voilà, c'est important de le dire aussi.
Conseils que tu aurais dû suivre.
Ouais. Mais depuis, c'est devenu un enfoiré, quand même.
Non, Stéphane Guillon, en réalité, qu'est-ce qui est mort aujourd'hui, votre carrière, le second degré ou la liberté d'expression ?
Ma carrière.
Non, mais votre carrière dans
mais rien n'est mort.
Mon interview.
Rien n'est mort. Tout est différent. Et avec cette différence, il faut essayer de faire quelque chose. Parce que finalement, ce qui est très intéressant aussi, les interdits. Quand tu es dans une société qui se recroqueville sur elle-même, c'est aussi très, très excitant de dire des choses et de franchir la ligne jaune. Donc le fait de dire on n'a plus le droit de rien dire et de le dire quand même, ouais, c'est très excitant. Donc moi, je pense que rien n'est mort. Mais c'est vrai qu'il faut... Il faut trouver d'autres chemins pour continuer à s'amuser et éviter les pièges qui sont nombreux.
De toute façon, les humoristes comme vous, je veux dire, le public attend que vous transgressiez quand même. Il vient aussi pour ça.
Bah oui, c'est une marque de fabrique.
Oui, il attend, mais enfin, c'est compliqué. Enfin, on va pas débattre pendant des heures là-dessus, mais je voilà, ça peut aussi parfois vous faire beaucoup de tort. Donc
qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous disent les gens, Stéphane Guillon, à la fin de votre spectacle ?
Est-ce qu'ils l'attendent déjà ?
Non, mais qu'est-ce qu'ils vous disent à la fin de votre spectacle, Stéphane Guillon ?
Comment il va tirer Ardisson ?
Ce que je préfère, en tout cas, qu'ils me disent, c'est que c'était trop court. Ah. Ça veut dire qu'ils ne sont pas emmerdés. Parce que moi, je m'emmerde souvent au spectacle. Et donc, voilà, je trouve que c'est une gageure de pouvoir garder les gens dans une salle une heure et demie, une heure et quart, et qu'ils trouvent à la fin que c'est passé trop vite.
Bah ça, c'est... Mais avec vous aussi, c'est passé trop vite ce
ouais.
matin.
C'est déjà
et
fini.
On attend les prochains adieux, déjà, avec impatience.
Merci pour votre accueil.
Europe 1, Anne Romanoff, l'histoire de la semaine.
Stéphane Guillon, on a une tradition dans cette émission. Chaque jour, on démarre une histoire et vous invitez de la poursuivre. L'histoire a été démarrée lundi par Michel Larocque, poursuivie hier par François Bégodeau. À vous de la poursuivre avec un mot tiré au sort dans ce chapeau.
Humour noir.
Humour noir. Donc vous, il faut que vous employiez le mot humour noir dans l'histoire. Vous allez écouter ce qu'ont fait les autres.
Alors, c'est l'histoire d'un brillantissime garçon qui faisait des études d'orthodontie. Et un jour, à côté de la fac, il rentre dans une boulangerie.
Il rentre dans une boulangerie et on lui propose une épilation intégrale. Alors, il s'étonne et on lui dit « Mais suivez-nous entre les murs, vous verrez, nous allons vous épiler. » Et à ce moment-là, effectivement, on l'épile totalement. Le maillot, on le rase, les sourcils, et il sort sans aucun poil sur le corps, totalement imberbe. Et il ne comprend pas ce qui se passe, son entourage est totalement abasourdi. Quelqu'un lui dit « Non, mais à mon avis, tu sais, toute cette histoire, c'est de l'humour noir. » Et il commence à l'humour noir. Oui, je pense que c'est de l'humour noir. Le gars ne comprend pas pourquoi on lui dit ça. Il cherche et il va trouver la raison.
Merci Stéphane Guillon de passer nous voir.
Vous avez noté que celui qui doit reprendre l'histoire est sacrément dans la merde.
Ouais. On l'a noté. Merci Stéphane Guillon d'être passé nous voir. On rappelle votre spectacle « Premiers adieux » du mercredi au samedi à 19h au Théâtre de la Pépinière. Nous, on vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. On sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.